Non, mais on l'a-tu l'affaire, hein, faire des liens, hein? Moins 38 avec le refroidissement éolien. Je vous offre du Louise Attack, je t'amène au vent. Non, mais, tu sais, thématique. À CIELA ce matin, on parle pour la première fois depuis un bon bout de temps avec DLC du www.danslescoulisses.com. Salut, DLC.
J'ai-tu entendu moins 38?
Ouais, ouais, ouais. Puis, écoute, c'est pas Fermont. Le Fermont, il fait moins 50 avec le vent matin, là.
T'es sincère, là?
Oh, oui, je te niaise pas.
Aïe. Je suis bien dans mon sous-sol montréalais.
Hey, imagine, j'étais à Cuba, moi, la semaine passée, là. On est loin,
hein? On s'entend qu'on n'est pas loin de 75-80 degrés d'écart, tu sais. Puis je suis sûr que t'as mis une petite veste un soir en disant « Ah, c'est frais à Cuba ».
Exactement.
Oui, tout est relatif.
Je me suis mis un petit hoodie, là, tu sais, les chandails kangourous, tu sais, un soir, enfin, hein? Il y a un petit vent.
Ah ouais, c'est ça, exact. Non, mais j'espère que tu vas avoir des belles vacances et j'espère qu'on peut parler de d'autres choses, s'il te plaît. Tu nous écœures ce matin.
Ouais, hein?
Ouais, exactement.
Mais le hockey, t'es en train de revenir, là. C'est vrai, là. C'est pas un faux bond, c'est pas une blague qu'on nous fait, là.
Non, le hockey va revenir, comme on se dit, hors d'onde. Il y aurait une possibilité que les joueurs ou les propriétaires votent contre cette entente. Un peu comme ça avait eu lieu dans le conflit étudiant. Les leaders étudiants s'étaient entendus sur une entente. Puis quand ils avaient amené l'entente au vote chez les leurs, bon, on avait voté contre. Ça n'arrivera pas dans la LNH. Les joueurs vont voter pour. Les propriétaires vont voter pour. À partir de mercredi, si les délais ne changent pas, tout sera ratifié. Peut-être jeudi du côté des joueurs. À partir de là, les calendriers vont sortir. On va avoir des confirmations sur toutes les données qu'on veut avoir en ce moment, mais ça s'enligne vers une saison de 48 matchs qui débuterait samedi le 19 janvier. Des camps qui s'amorceraient probablement à la fin de semaine prochaine, samedi, nous dit-on, dans les dernières nouvelles. Et des tests médicaux, jeudi ou vendredi, cette semaine. Ça ressemble pas mal à ça. Les gars, dans la plupart des équipes, sont déjà dans leur ville ou le seront demain. Il reste quelques joueurs russes là qui se font offrir des petits cadeaux peut-être en dessous de la table pour essayer de rester dans leur équipe en Russie. Il y en a pas beaucoup. Il voudrait rester en Russie, mais il y en a peut-être un Sergei Kostitsyn ou quelqu'un comme ça, peut-être voudrait rester. Fait qu'on risque peut-être d'avoir un ou deux problèmes de ce côté-là. Pas de problème chez le Canadien. Markov veut revenir. Sa vie est ici, il veut jouer ici, donc pas de problème à ce niveau-là. Il y aura pas de tournoi de golf cette année en janvier. On l'a eu sans les joueurs en septembre dernier. Ça ressemble pas mal à ça et on attend la confirmation de tout ça et surtout, les premiers matchs seront contre qui? Tu sais, on n'aura pas un match contre Columbus. Là. Les premiers matchs, on veut avoir des rivalités naturelles, donc ça devrait être contre Boston, contre Maple Leafs pour faire monter l'intérêt dès le début. J'ai hâte de voir. On parle de boycott un peu partout. D'après moi, les bancs vont être pleins, les gens vont crier, vont être contents. Par contre, le Canadien est mieux de gagner rapidement parce qu'on va se souvenir de la fin de la saison dernière où les bancs n'était pas rempli, où l'ambiance n'était pas très bonne, où les gars ne se donnaient pas tant que ça. Dans le fond, le cirque Pierre Gauthier, là, pourrait revenir rapidement si les gars gagnent pas. Donc, si moi, j'étais un joueur du Canadien, ou Marc Bergevin, ou Michel Therrien, je m'arrangerais pour que mes petits gars se donnent sur la glace et remportent des matchs en début de saison.
Ouais, mais là, on va se le dire, là, on n'a pas amélioré d'équipe tant que ça, là, depuis la dernière saison. On n'a pas été chercher des joueurs de premier plan. On marquait pas de but l'année passée, puis on n'a pas été chercher de marqueur. On est terminé dernier dans l'Est. Pour moi, là, tu sais, je regarde ça de l'extérieur. Là, je regarde ça, là, je planifie comme un DG là, sur 5 ans. Là. Puis je me dis, une demi-saison, meilleure cuvée au repêchage des 10 dernières années. Tu sais, si tu veux en sacrifier une, là, ça serait peut-être celle-là. Là.
Ouais, mais la LNH le sait. Il change son planning. Ce n'est plus une loterie entre 5 équipes qu'on aura pour le premier choix. Ce sera une loterie entre 14 équipes. On ne sait pas encore quel pourcentage, combien de boules chaque équipe. Donc, tu peux pas faire, personne ne faisait exprès, mais je veux dire, tu peux pas ne pas tout faire pour gagner et tenter de terminer le plus possible et t'assurer un haut choix au repêchage. Ça va être un petit peu différent cette année. Deuxièmement, faut voir le Canadien comme il est. Certainement pas aussi bon que les Fafans le voient dans leur tête et rêvent de les voir premiers, mais certainement pas aussi poche qu'il a été l'année passée. C'était une folie, c'était un cirque à Montréal l'année passée. C'était vraiment quelque chose, c'était une première, autant de bizarrerie, autant de trucs qui ne fonctionnaient pas à l'interne. Là, tu as réglé certains problèmes, tu as fait un ménage en haut. Il manque des joueurs sur la glace. Il manque toujours un attaquant pour compléter le deuxième trio avec Plekanec et Gionta. Cet attaquant-là, est-ce que c'est Heller? Est-ce que c'est Galchenyuk qui va avoir le droit à quelques matchs?
Mais non, c'est Prost.
Est-ce que c'est Brandon Prost? Est-ce que c'est René Bourque? T'sais, René Bourque, quel René Bourque on aura au camp? Ça, c'est notre première question. Deuxième question à la défensive, on est encore beaucoup trop mou. Caberlé, Markov, Weber, Diaz, même Georges est un bon combattant, mais c'est pas un gros défenseur qui distribue de grosses mises en échec. Donc, deux problèmes qui n'ont pas été réglés. Est-ce que Marc Bergevin va les régler dans les prochains jours, là, avant que la saison commence? Est-ce qu'il va offrir finalement le contrat à Subban? On n'est pas à quelques jours près de la Coupe Stanley, mais on est quand même à quelques mots près d'avoir une belle saison. Laissons le temps à Marc Bergevin de peut-être accomplir de la magie. Mais comme je dis, je m'attends pas à ce que le Canadien termine dernier, je m'attends pas à ce qu'il soit premier non plus. Se battra-t-il pour une place en série? Je lui souhaite.
3,5, 4 millions semaine, hein, on s'entend là-dessus. Ça va être dans ce range-là?
Et oui, mais on n'a pas avancé. J'ai parlé à quelqu'un hier soir. On n'a pas... Tu sais, il y a des rumeurs qui disaient, bon, Mian a parlé à Bergevin pendant tout ce temps-là, off the record, parce qu'il avait pas le droit de le faire légalement. Et bon, ils ont sûrement une entente, puis quand quand le lock-out va être terminé, ils vont juste sortir les papiers puis les signer. C'est pas le cas. Il n'y a pas d'entente. On n'est pas plus près qu'on l'était. Le clan Subban et Mian se rencontrent aujourd'hui à midi à Toronto. Ne peut pas parler avec Bergevin avant mercredi ou jeudi. Et le clan Subban, aux dernières nouvelles, voulait encore un contrat à long terme, donc 5 saisons et plus. Et Bergevin, le Canadien, est toujours prêt à lui offrir 2 ou 3 saisons. Avant même de parler de montant d'argent, il va falloir s'entendre sur le nombre d'années. Il va falloir qu'on décide, est-ce qu'on le prend à long terme ou est-ce qu'on lui fait tester? Est-ce qu'on le fait tester? Est-ce que la nouvelle direction veut le voir s'il peut enfin rentrer dans les rangs, dans le vestiaire, parce que c'est pas réglé, ce problème-là. Des fois, le Fafan a arrêté de parler que Subban n'est pas aimé dans le vestiaire. C'est un fait, c'est un cas. Donc, est-ce qu'on va lui faire passer le même chemin que Price et Pacioretty ont eu, c'est-à-dire signer un contrat de 2 ans entre leur premier contrat et leur gros contrat à long terme? C'est ce qu'on veut chez le Canadien. Est-ce que Subban et Mian vont embarquer ou est-ce qu'ils vont y aller avec la ligne dure comme Mian avait fait avec Drew Doughty l'année passée, c'est-à-dire, on veut un long terme, vous lui donnez pas, il va pas au camp, vous allez voir, vos partisans vont être en maudit. Est-ce que c'est ce qui va se passer avec Piqué Subban? C'est la grosse question. Certes, s'il signe à 2 ans, 3 ans, ce sera aux alentours de 3,5, 4, t'as parfaitement raison, peut-être même un peu de surprise, il y a 3, 3,25, mais est-ce que ça va être le cas, est-ce que ça va se faire?
Ouais, parce qu'il y a une nouvelle réalité aussi, là, un nouveau plafond salarial, nouveau plancher, nouvelles règles de jeu, tu sais, tu peux plus faire des ententes à long terme avec les dernières années, ça c'est selon ce qu'on a entendu dire entre les branches, tu peux plus avoir les dernières années là, qui valent quasiment rien pour avoir une moyenne sous plafond qui est plus basse, t'as les règles de jeu là, qui ont changé, ça va être drôle de voir comment est-ce que les DG vont travailler au début, là. Comment est-ce que les premiers contrats vont devenir des mesures étalons, là?
Exact. Puis autant chez certains DG, surtout les plus jeunes, comme Marc Bergevin, qu'autant chez certains agents qui font pas l'unanimité, on va être réticents à faire signer les premiers contrats qui vont devenir la nouvelle base de travail, qui vont devenir la nouvelle jurisprudence comptable financière dans l'LNH. Est-ce que Don Meehan veut être celui qui va plier, flancher, signer un petit contrat pour ensuite être pointé du doigt par tous les autres? Certes pas. C'est pas le genre à Don Meehan. Ça me surprendrait qu'on ait ça. Est-ce que Marc Bergevin va vouloir signer un méga gros contrat de Piqué Subban à long terme pour que tout le monde lui dise « Hey, le tweet, on vient de signer une nouvelle convention pour éviter les débordements avec les jeunes joueurs, 23 ans, etc. » Fait que c'est ça. Les deux camps s'opposent, ont des stratégies, ont des philosophies différentes, puis surtout les deux camps sont observés de leur camp respectif. C'est pour ça que Piqué Subban est probablement là ou dans les 2 ou 3 joueurs les plus observés par ceux qui regardent là, les caps, les masses salariales, qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle convention, ceux qui regardent ça. Là. Fait que c'est un dossier très, très chaud. D'ici mercredi, jeudi, c'est pas pire. On en parle, on spécule. Mais la seconde où ça sera officiel, parce qu'en ce moment, ils peuvent pas, la convention n'est pas encore signée et ratifiée par tout le monde, à la seconde où ce sera officiel et que ce sera « OK, on peut signer », là, on va commencer à avoir de la pression, puis là, on va commencer à après 2-3 jours, si c'est pas fait, que les camps approchent, là, ça va commencer à parler, puis si on se rend samedi, les camps ouvrent, Subban n'est pas là, si on joue entre équipes, là, écoute, jeudi, les gars vont tous patiner ensemble, peut-être même demain, peut-être même mercredi, là, ils vont tous être ensemble patiner, puis Subban ne sera pas là. Et là, ça va commencer à parler. Là, le camp va s'ouvrir, si Subban n'est pas là, ça va faire effet boule de neige. Je trouve ça plate, parce que le partisan du Canadien vient de dealer avec un conflit contractuel, le lockout. Et là, il est pris encore avec un autre conflit d'argent, de données, d'années qui enlève toute la magie du sport. Donc, s'il vous plaît, réglez ça rapidement, qu'on puisse penser à des rondelles puis des bâtons.
Sinon, en dehors du Canadien, là, c'est quoi le premier move, là, le premier transfert ou première signature ou premier échange là, qui va marquer cette nouvelle saison à court terme? Est-ce que Luongo à Toronto, c'est toujours dans les plans? Est-ce que Phoenix, la formation est entre de bonnes mains, entre mains sûres? Est-ce que c'est complété? C'est quoi le premier blockbuster là, qu'on aura des nouvelles par rapport à la Ligue nationale?
Certes, la situation de Roberto Luongo est à regarder très, très proche. T'sais, le gars a dit hier, je suis fier d'être un membre des Canucks, jusqu'à temps qu'on me dise que je ne le suis plus. Ça sent le gars qui sait qu'il sera pas un membre des Canucks. Les rumeurs sont nombreuses, et ça depuis longtemps. Il y a 4-5 mois, avant le lockout, il avait été échangé aux Panthers, c'est sûr. Il y a un joueur qui n'avait pas levé sa clause de non-échange. Les rumeurs disent que c'est José Théodore. On n'est pas certain, donc on fait attention à ça. Est-ce qu'avec la nouvelle convention, il y a moyen d'envoyer Luongo en Floride, que ce soit d'autres joueurs? Est-ce que José va lever sa clause? Est-ce qu'il y a un autre gardien qui va lever sa clause? Question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il y a eu beaucoup de rumeurs par la suite à Toronto. Certes, Toronto a de l'intérêt pour Roberto Luongo, mais il ne faut pas oublier une chose. Luongo décide à la fin à quelle équipe il va avec sa clause. Est-ce que ce sera la seule option? Ça va être genre, tu t'en vas à Toronto ou tu restes ici, ou on te... Je connais pas tous les détails, mais où on te t'envoie au balotage. Beaucoup de questions. Selon moi, là, à l'heure où on se parle, il n'y a rien de fait encore. Roberto a une bonne idée de ce qui va se passer, mais il n'y a rien de fait. Floride, Toronto, les deux possibilités les plus grandes. Tu as toujours les Oilers qui rêvent d'avoir Roberto Luongo avec eux, mais Luongo veut-il aller à Edmonton? Point d'interrogation. Ça risque d'être le premier. Puis il y a une autre chose que je trouve super intéressante. J'ai fait attention avec ça. Il y a juste le 98.5 Sport qui en parle en ce moment. Il y aurait possibilité d'échanger un joueur puis de garder une partie de son salaire, voire peut-être même la totalité de son salaire. Si cette info-là est vraie et elle se confirme, le Canadien pourrait échanger, exemple, René Bourque, Scott Gomez, Tomáš Kaberlé, n'importe où, dans une équipe un petit marché. La masse salariale s'en va à l'équipe sur le petit marché, donc l'équipe est contente, elle atteint le plancher plus vite. Et d'un autre côté, le Canadien, lui, il se débarrasse d'un gars qui ne veut plus et son salaire n'est plus sur la masse salariale, disparaît. Jeff Molson et ses associés le payent quand même. Je pense qu'ils ont déjà pris la décision que Gomez, s'il y a moyen de s'en départir, ils vont le payer sans l'avoir dans l'équipe. Donc ça, si ça se confirme, ça va être intéressant de voir si le Canadien ne va pas justement échanger un joueur à gauche, à droite, en attendant les rachats cet été, parce que les rachats, c'est pas tout de suite, c'est l'été prochain. Donc on va surveiller ça. Si cette donnée comptable-là existe, ça devrait peut-être bouger chez le Canadien en premier.
Merci beaucoup, DLC. On va se reparler à l'avenir les jeudis matins. On reprend notre case de chronique habituelle jusqu'à la toute fin des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, quelque part au fin fond du milieu de l'été. Et c'est un lancement de saison. Jeudi, on espère que ça sera signé là, la convention collective, et qu'on aura des bases plus solides sur lesquelles discuter pour l'avenir de la saison.
Et je suis très heureux de te reparler. J'attendais ce moment-là du début de la saison avec hâte. Souhaitons qu'on se parlera de trucs positifs beaucoup plus que de trucs négatifs cette année.
Yes. Merci beaucoup, DLC.